t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. T'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi je désire habiter dans ton temple. Un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.
Don't know.
dans ta gloire. Par ton don magnifique, je connais l'espoir. Rivage rebelle de mes nuits, éclat puissant à travers l'orage de ma vie. L'amour cloué sur le bois tel un malfaiteur, secours voué à la croix pour tes serviteurs.
Avec votre papa maintenant, exprimez-lui ce qui vous tient sur votre cœur. Prenez ce moment.
Proclamerai
vie. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul es mon Dieu.
Je lui ai dit de prier pour moi, que c'était prudent.
Dieu Père, j'aimerais te remettre Philippe, que tu lui accordes la sagesse, l'intelligence, que tu diriges ses mots, ses paroles pour l'édification de l'Église. Par Jésus-Christ.
Waouh, quelle belle assemblée, quelle belle équipe aujourd'hui. Merci pour l'invitation que vous avez envoyée à la FRAE, que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui. Je me présente courtement. Ça va le son? Ouais, c'est pas top. Vous voulez que je prenne votre micro? je remets le compteur à zéro, chaque fois. Un, deux, un, deux. Ouais, c'est ça. C'est... Ah, ouais. Il me semble que c'est pas mal. Bien. Je m'appelle donc Philippe Tuller. J'ai le plaisir d'être le secrétaire général de la FRE, la Fédération romande d'églises évangéliques. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation aujourd'hui pour l'installation de Philippe. C'est vraiment une étape très, très réjouissante. On sent qu'il y a de l'appui derrière Philippe. On sent qu'il y a de la joie dans cette journée. Et pour la FRE, c'est toujours une immense reconnaissance quand un pasteur est confirmé. Alors, je vous transmets vraiment les salutations de tous, le bureau exécutif, le bureau de la rencontre générale en particulier, aussi la commission des ministères. Il y a beaucoup de changements pastoraux en ce moment dans la FRE, probablement du fait qu'un bon nombre de nos pasteurs sont des baby-boomers qui gentiment arrivent à la retraite. On est reconnaissant d'avoir une relève quand même qui est là et pas trop de postes qui restent vacants trop longtemps. C'est une vraie grâce parce que c'est aussi un vrai défi. Il y a 3 installations de pasteurs ce dimanche. Une autre à Claron où Thierry Cuny est installé aujourd'hui. Et puis à Lavigny, Mathias et Jordana Lampert passent exactement par la même étape réjouissante. Alors, c'est vrai que la commission des ministères, la FRE, on fait un petit peu ouf quand on arrive à l'installation. Parce que les changements pastoraux, c'est quand même des étapes qui sont délicates. D'une part, parce qu'il peut y avoir un petit peu de tristesse de quitter l'ancien ministère que le nouveau remplace, connaît pas trop, etc. Il y a bien sûr, de la réjouissance, les nouvelles opportunités que ce ministère amène, pour lesquelles on se réjouit. Mais de toute façon, il y a de l'adaptation, il y a de l'incertitude. Alors, quand on arrive à l'installation, c'est que l'étape des fiançailles, si on ose la comparaison, s'est bien passée. Et puis, on est un petit peu détendu. On se dit, bon, ben, super, Amérin pour les prochaines années, c'est bon. On a senti une belle conviction d'aller de l'avant avec Philippe comme pasteur, avec son épouse aussi, sa famille. On sent que ça a bien matché, comme on dit en français, dans l'église ici de Mérin. Ça s'est ressenti dans la communication, ça se ressent aussi dans l'organisation. Tout est tip-top et j'en suis reconnaissant. Alors, si notre président tout à l'heure a questionné pourquoi l'installation, je vais aller un cran plus loin. Pourquoi le pasteur ? Hein? Et vous inviterez quelqu'un la semaine prochaine pour dire pourquoi l'Église, peut-être. Je vais en tout cas répondre à cette question. D'une manière probablement assez différente de nos ancêtres, vous savez que les évangéliques aiment bien retracer leur origine au réveil de Genève. Et à cette époque-là, juste avant, les pasteurs avaient une fonction relativement sociale, voire politique, de temps en temps. C'est bien là d'ailleurs que le bât a blessé. Et puis, on pourrait dire en quelques mots qu'une des fonctions du réveil, c'était de remettre le pasteur au milieu de l'Église, lui redonner un rôle plus spirituel. Et puis après, nos assemblées ont eu toute une époque d'extrême méfiance vis-à-vis des pasteurs et de tout ce qui pouvait se ramener à un certain clergé, en particulier dans nos assemblées de frères. Plus question d'avoir des pasteurs à cette époque. Et de temps en temps, ça peut ressortir encore un petit peu ici ou là, quand on me raconte ce qui se passe dans une église. Ça semblait tellement mieux avant, même si j'ai des doutes. Depuis, bien sûr, de l'eau a coulé sous les ponts. Et aujourd'hui, on a au contraire des modèles de pasteurs leaders, et parfois à la limite d'être le chef d'entreprise. Alors, pourquoi un pasteur ? Alors, si on revient un petit peu plus concret, sur le concret, le pragmatique, c'est vrai qu'on apprécie d'avoir un pasteur pour les nombreuses applications qu'il représente, comme tu l'as présenté. Ses connaissances, hein, top Bible, ça c'est le pasteur, son accompagnement, parfois son accompagnement des aînés, sa disponibilité, parce qu'il gère aussi la vie de l'Église, parce qu'il est un exemple, probablement aussi pour nous, voire même un représentant de Dieu. Non, je suis allé trop loin là. Pardon, excusez-moi. Alors en tout cas, un exemple. Est-ce que c'est à ça que sert un pasteur, en fait? Oui, entre autres, on aimerait dire, mais est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pour ça qu'on salarie notre pasteur? Je voudrais revenir à la base, et donc à la raison d'être de l'Église pour bien comprendre le rôle du pasteur. Dit de manière très directe, comme ça, vous m'excuserez, la vocation de l'Église, c'est d'être témoin du Christ dans le monde et de former des disciples. Rien d'autre. C'est la substance de la raison d'être de l'Église que Jésus a répété dans les quatre évangiles, dans les actes, et c'est là-dessus qu'on devrait s'aligner. Et la tâche est immense. Si vous avez déjà essayé de partager l'amour de Jésus avec vos contemporains, ben vous avez vu que ce n'est pas si simple, quand même. Et puis si vous-même, je suis sûr que vous le faites, hein, vous essayez de grandir comme disciple du Christ, eh bien, ce n'est pas beaucoup, beaucoup plus facile. Alors, Jésus appelle des ministères à notre secours. Le texte d'Éphésiens 4, 11 jusqu'à 15, nous dit en substance, « C'est lui, le Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. » Alors je sais que parfois ces versets sont un petit peu délicats. On se divise volontiers sur la première partie en se demandant qu'est-ce que c'est vraiment ces ministères, comment on les reconnaît, qui les a, qui ne les a pas, quelle autorité on doit leur donner. Mais quelle que soit la réponse qu'on donne à ces questions, la deuxième partie des versets est très très claire. Et là-dessus, on peut être d'accord. Jésus donne ses ministères pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Alors, plein de questions. C'est qui les saints? Eh bien, c'est vous, réunis. Voilà comment Dieu nous voit. Nous sommes saints à cause du sacrifice de Christ et du fait qu'on l'a pris à notre compte. Il nous forme aux tâches du service. Vous savez qu'étymologiquement, service et ministère, ça a la même racine. Vous êtes donc en train d'être formé au ministère, ce ministère de témoignage, ce ministère de formation de disciples. En vue de quoi? Eh bien, de l'édification du corps de Christ, cette fameuse croissance qui en résulte, et cette formation. Et ça veut dire donc que le pasteur est là au milieu pour vous aider à grandir dans tout cela. Philippe, et j'ajoute Claude, bien sûr, à ses côtés, ils sont là pour vous équiper pour cette mission, et cela de manière à ce que la communauté s'édifie et grandisse. Alors ça, ce n'est pas simple. Dit un peu crûment, être payé pour vous amener à changer et sortir de vos murs est probablement un des métiers les plus difficiles et les plus risqués. Eh oui, c'est vrai que s'ils sont là pour gérer l'agenda, pour visiter, pour organiser, pour être des exemples, on a un petit retour sur investissement assez sympathique. Mais s'ils sont vraiment là pour vous pousser à grandir dans qui vous êtes, dans l'appel que le Christ vous adresse, alors c'est autrement plus difficile. Alors j'aimerais vous partager deux ingrédients qui me paraissent essentiels au bon fonctionnement de l'Église et puis à la sauvegarde aussi des ministères que vous avez installés et que vous êtes en train d'installer aujourd'hui. L'ingrédient numéro 1, il est très simple et pourtant cruellement recherché par un bon nombre de nos pasteurs. C'est la confiance. Parce que la confiance, quand elle est mise à mal, il faut s'empresser de la rétablir. Et quand la confiance est perdue, c'est souvent la crise. J'ai malheureusement trop souvent l'occasion d'intervenir dans des églises qui passent par des temps de crise, de difficultés, pour réaliser qu'au final, au-delà des modèles, de la théologie, au-delà des mots parfois un peu durs qui ont été échangés, la base qui manque, c'est la confiance. On ne fait plus confiance. On craint l'autoritarisme, on craint la dérive, on craint la manipulation. Il y a des tas de choses qu'on peut craindre parce qu'on ne fait plus confiance. Malheureusement, la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Vous avez déjà entendu cela ? Et je crois que c'est extrêmement vrai. Alors veillez par-dessus tout à ce petit récipient dans lequel vous allez distiller la confiance pour vos ministères. Et faites attention aux grands coups de butoir qui peuvent venir la faire se rompre et faire perdre ces litres qui auront été accumulés au cours des années. Faites confiance à votre ministère, à vos ministères, et donnez-lui la liberté d'exercer ses dons parmi vous. Ces dons, c'est pour l'équipement aux tâches du service, les tâches du ministère. Donc, c'est des dons pour vous faire grandir, c'est des dons pour vous défier. L'évangéliste, en lui, va vous pousser hors de vos murs, va vous dire « Non, mais les gens ne parlent plus comme ça aujourd'hui. Il faut adapter, il faut expliquer. » Et puis surtout, il faut vous lancer. Vous avez des amis, vous leur avez parlé du Christ. Allez-y. L'enseignant, lui, va vous remettre en question sur votre théologie. Parfois pour la rendre plus pointue et d'autres fois pour la rendre plus ouverte. Faites confiance. Bien sûr, le berger en lui, que vous reconnaissez puisque c'est le texte de l'invitation, va aussi vous faire du bien. Mais pas seulement, il va peut-être aussi vous équiper pour que vous-même puissiez prendre soin d'autres. Je ne vais pas passer par les 5 ministères, mais vous comprenez l'idée. Cette idée qui est toute simple, mais qui défie ce qui parfois reste encore un petit peu au fond de nous, j'espère qu'il va quand même être à la hauteur de ce que je lui donne chaque mois. Son salaire. Alors je sais qu'en général, on ne pense pas comme ça, et je m'en réjouis. Et puis en même temps, quand la confiance se perd, c'est fou ce qu'on redevient très terre-à-terre comme ça. Le deuxième ingrédient, c'est la liberté. J'aimerais vous encourager à donner de la liberté à vos ministères. Une liberté d'exercer le ministère là où il y a de la vie. Parce que dans l'Église, dans le monde, il n'y a pas de la vie partout. Il y a des endroits où on a beau mettre beaucoup d'énergie, il n'y a pas grand-chose qui pousse, pour ceux qui ont fait un petit peu de jardin. Et puis à d'autres endroits, sans qu'on ait vraiment fait exprès, il se passe quelque chose. Dieu est à l'œuvre, Dieu est là. Et j'aimerais vous encourager à libérer vos ministres pour qu'ils travaillent là où Dieu est en train de travailler, là où Dieu est en train de susciter la vie. Et ce n'est pas toujours là où on l'attend. C'est des fois au resto du coin, au café de 10 heures, que la vie apparaît. Ne leur interdisez pas de prendre la pause au café du coin. C'est parfois dans une semaine de camp où ils ont été invités pour une autre église. Ah zut, mince, ça ne va pas être pour nous qu'il y a la vie. Là. Libérez-les. Ça va les renouveler, ça va leur donner l'occasion de pouvoir être au cœur de ce que Dieu fait, de voir du fruit. Et puis d'exercer leur ministère comme ils ont à cœur de le faire. Et cette liberté, elle va vous être redonnée en retour. Parce que vous aurez un ministre qui est bien dans ses baskets, qui est à l'aise, qui n'est pas coincé dans un descriptif de fonction, qui est un outil utile, et Dieu sait si on a passé du temps à les élaborer, à les travailler. Mais j'aimerais dire que je préfère qu'on adapte le cahier des charges à la vie que Dieu est en train de produire, plutôt qu'on stérilise la vie pour qu'elle entre bien dans le cahier des charges. Alors là aussi, de la liberté. C'est très proche de la confiance. Hein, on n'a pas véritablement l'un sans l'autre. Le but, c'est quoi ? C'est de pouvoir laisser Dieu infuser de vie, de confiance et de liberté toute votre communauté et de pouvoir comme ça y adjoindre tous ceux qu'il aimerait encore appeler du côté de Mérin et environ. Parce qu'on sent, dans l'esprit que Dieu agit, que Dieu lève. Il y a des générations de jeunes qui vont partager l'évangile dans la rue, comme ça fait longtemps que ça ne s'est plus fait. Et ils voient des fruits que ça fait aussi longtemps qu'on n'a plus vus. C'est assez incroyable. différents mouvements comme ça qui se mettent en place. On en parle dans les conférences de pasteurs, à Transvision, etc. Partagez l'évangile, faites des disciples. Il y a un véritable retour vers cette vocation de l'Église que je rappelais au tout début. Et pour ça, ça demande des pasteurs, des ministres qui ont la confiance et la liberté de leur communauté d'être ce que Dieu leur a appelé à être. Alors, qu'est-ce qu'il en est de mes reins ? Eh bien, je sens des bonnes choses. Le verset choisi, par exemple, sur l'invitation, on dit un petit bout. Jérémie 3,15, vous l'avez peut-être lu, « Je vous donnerai des bergers à ma convenance, ils vous dirigeront avec du savoir-faire et du discernement. » Les traductions sont assez variées. Par exemple, la Second 21 traduit « Ils prendront soin de vous », soulignant plutôt le côté pastoral qu'on peut voir dans le berger. L'ancienne version, Louis II, indique simplement « Ils vous paîtront ». Donc pour les jeunes, c'est le verbe « paître », pas « péter ». C'est... Il faut préciser parfois. Je vois donc derrière ce choix, ils vous dirigeront, quelque chose de probablement intentionnel, pour dire que l'Église est prête à se laisser remettre en question, à se laisser conduire par le ministère de Philippe et aussi par celui de Claude. Et ça, ça me réjouit, parce que je crois qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut pouvoir accueillir la vague que Dieu est en train de préparer, il va falloir avoir des ministères qui sont vraiment là pour faire ce que Dieu leur a appelé à faire. Et puis, il faut cet ancrage en tant que pasteur pour pouvoir mener à bien cette mission. Si on est toujours en train de se demander quelle légitimité on a, quelle marge de manœuvre on a, eh bien, c'est difficile. Alors, j'aimerais vous dire en conclusion, mon cœur, vous avez de la chance avec Philippe, avec Claude. C'est de super ministères qui ont un cœur de berger avec du savoir-faire et du discernement. Je crois que ce verset colle bien à la réalité. Alors, laissez-lui de la place, laissez-leur de la place, donnez-lui à Philippe de la confiance pour vous édifier, vous défier et vous permettre en tant qu'Église de vous approcher de cette vocation que Dieu vous adresse. Partagez l'amour de Jésus avec chacun. Amen.
Après ce Notre Père, je vous propose de passer un moment de scène pour se rappeler tout l'amour de Jésus-Christ et cette liberté qu'il nous a donnée. On a parlé de liberté tout à l'heure, et c'est Christ qui nous a rendu cette liberté. Je vais lire l'institution de la scène dans 1 Corinthiens 11, au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Nous prions. Seigneur, merci pour le souvenir de ton sacrifice que nous nous remémorons maintenant. Merci parce que nous nous rappelons que tu as payé le prix ultime pour nous, pour notre liberté, pour notre salut, en ayant le courage de mourir sur la croix, dans cette espérance de ta résurrection. Alors merci parce que ce que tu as traversé nous fait prendre au sérieux ta parole, ta vocation sur l'Église qui est ton corps encore aujourd'hui. Alors que ces éléments nous purifient, nous sanctifient, nous mettent à part pour toi, qu'ils nous renouvellent, qu'ils nous guérissent, qu'il nous restaure. Au nom de Jésus. Amen.
Alors, pour le service, j'aurai besoin de 3 personnes et je propose aussi de faire travailler Philippe au service de la communauté. Donc, ça nous fera 4 personnes en tout. 3 personnes pour distribuer la scène. Pour le vin, il y a ces plateaux et au centre les petits godets qui sont roses avec du jus de raisin, le reste c'est avec du vin. Et puis ceux qui préfèrent la coupe, vous levez la main, on passera vers vous. Prions. Père, dans ton immense amour, tu nous as donné Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Par ce repas que nous avons pris, nous voulons nous souvenir de toute cette œuvre, mais surtout se souvenir qu'un jour Jésus-Christ reviendra nous chercher. Et c'est une espérance qui nous fait vivre. Merci pour tout cet amour. Merci pour cette liberté que nous avons en toi. Merci parce que nous avons ton esprit qui nous dirige sur cette terre. Merci parce que tu donne tous les ingrédients pour que nous puissions être guidés et que nous puissions vivre cette vie qui mène à ton royaume. Amen. J'invite le groupe Louange à me rejoindre. Avant la partie un peu plus officielle, nous allons procéder à l'offrande. Et les corbeilles vont passer pendant le chant.
«
Nous n'avons qu'un seul Père qui pour nous.
vais prier pour l'offrande. Père, nous te remercions de ce que nous pouvons mettre quelque chose pour toi, pour ton Église, pour l'édification de ton Église. Nous voulons te demander de bénir et d'accorder la sagesse à ceux qui répartiront cet argent pour qu'elle serve à ton royaume. Par Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à un moment un peu plus officiel, ce moment de l'installation. On a parlé de fiançailles, de mariage. C'est l'engagement. Et c'est des moments forts. On remercie les différents officiels qui sont venus, comme je les ai cités tout au début du culte, le conseil intercommunauté, la paroisse catholique, les représentants de la paroisse protestante, qui nous font l'honneur de leur présence. Je dois excuser le curé Aluin, qui nous a annoncé qu'il avait un baptême et qu'il ne pouvait pas être présent. Donc je remercie toutes ces présences. Pour commencer, j'invite André Dufour pour nous, au nom du groupe de recherche du pasteur, venir dire quelques mots.
On ne l'attendait pas de là-bas. On le voulait comme ci, comme ça. On l'imaginait avoir vécu ceci, mais moins cela. Il devait être jeune, mais pas trop. Expérimenté, plein d'idées. Leader, mais aussi collégial et consensuel. Il devait entrer dans la continuité tout en apportant un vent nouveau. Enfin, nos cœurs et nos têtes étaient remplis de toutes sortes de désirs et d'idées, parfois contradictoires. Ces désirs, nous les avons alors portés avec l'Église, exprimés devant le Seigneur. Comment a-t-il fait, lui, pour mettre de l'ordre dans nos pensées humaines, donc limitée? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, il est Dieu. Il nous a entendus et il a pourvu. Dans l'humilité, nous lui disons toute notre reconnaissance. Nous, membres du GRP, nous avons travaillé avec notre cœur, notre intelligence, dans la prière. Nous avons écouté les avis et précieux conseils que nous ont donnés lors d'interviews individuelles Roger, le pasteur qui a pris sa retraite, Claude Bécher et le conseil. Nous avons acquis tout au long de notre cheminement la conviction que Philippe était celui que le Seigneur avait préparé pour Mérin. Un passionné, authentique, qui transmet avec conviction son amour du Seigneur et pour l'Église. Son âge, un très bon compromis entre la fougue et l'expérience. D'emblée, nous avons ressenti chez Philippe le désir d'accompagner notre Église dans son développement et son affermissement, ainsi que dans sa mission de témoin du Christ dans la cité, mission conjointe avec les églises protestantes et catholiques de Mérin. Aujourd'hui, nous attestons que nous avons reçu des bergers, Philippe et Claude, selon le cœur de Dieu. Jérémie 3,15. Et je reprends une autre description, une autre définition du berger de Philippe Ribes. Un berger, selon le cœur de Dieu, va montrer la direction du ciel par sa parole et surtout par sa vie. C'est un homme qui va marcher devant le troupeau en l'encourageant et en le fortifiant. Le berger, selon le cœur de Dieu, permet à chaque brebis de s'épanouir dans sa personnalité et de développer les dons qui lui ont été confiés. Pour terminer, j'exprimerai non pas une parole à nos pasteurs, mais un souhait. Que nous nous souvenions, chers frères et sœurs, dans les années qui viennent, pas aujourd'hui, celles qui viendront, que Philippe et Claude ont été choisis par Dieu pour être nos bergers. Que nous sachions alors les aimer, les respecter confiance, et les encourager dans la fonction qui leur a été confiée.
Et maintenant la parole à Michel Serex pour la part du... Ouais. C'est pas le même point.
C'est pas le même point. Ouais, non, on a pas le même fournisseur.
Exactement.
Moi, j'achète pas de pommes.
Voilà, de la part du conseil, je suis devant vous pour partager ces quelques paroles aujourd'hui encore. Avec le conseil, Philippe a partagé la responsabilité de la bonne marche et de la vie spirituelle de l'église évangélique de Mérin durant une année. C'était une belle année. Au mois de juillet, l'année étant presque écoulée, parce qu'en fait ce serait non, plutôt maintenant qu'il faudrait faire, au mois de juillet, l'année étant presque écoulée, nous avons fait une évaluation, le conseil a fait une évaluation avec Philippe, hein, de manière collégiale, nous avons fait une évaluation du ministère qu'il avait déployé dans notre église durant cette année. Cette évaluation est recommandée par notre fédération d'église. Elle a été faite, d'ailleurs, en utilisant un modèle qui est fourni par la fédération, dont les questions vont de la tenue du prédicateur jusqu'à la théologie du prédicateur. Donc, vous voyez, c'est vaste. Hein, donc, les quelques propos qui suivent reposent sur les éléments qui sont ressortis lors de cette évaluation, qui est le premier pas vers une évolution. Cher Philippe, nous voulons te dire au nom du conseil le plaisir que nous avons eu à travailler ensemble durant toute cette première année de ton ministère à Mérin. Après 16 ans de ministère en France voisine, tu as fait un grand saut en annonçant ton départ sans connaître ton lieu d'arrivée. Et tu t'étais adressé à la commission des ministères de notre union d'église, la FRE, et ton dossier est arrivé pile au moment où la commission de recherche, comme nous l'a dit André, désespérait un peu de trouver le pasteur idéal qui convenait. Tu as fait aussi un grand saut au point de vue de la culture d'église, avec le même fondement commun. La puissance de l'Évangile transforme les vies avec la même passion pour transmettre cette bonne nouvelle, mais avec des habitudes différentes. Tu as dû raboter un peu la longueur et la fréquence de tes prédications, t'adapter, et ça a été un challenge, tu nous l'as dit, à l'animation du catéchisme. Tu as découvert avec bonheur, nous as-tu dit, la richesse de la collaboration œcuménique à Mérin. Tu t'es rapidement intégré avec ta famille dans notre communauté avec toute sa diversité. Et tu as développé des contacts privilégiés très rapidement avec le groupe de jeunes qui tout de suite t'a invité au camp de ski comme orateur. Ah, ça c'était un beau challenge. Et tu t'es également impliqué dans la commune, dans les activités sociales en particulier, exactement dans le droit fil de notre souhait de communauté, de ensemble rejoindre Mérin comme nous avons été rejoints par le Christ. Tu es également entré pleinement dans notre manière collégiale de travailler, aussi bien avec le conseil qu'avec ton collègue Claude Bécher. Avec, tu nous as dit, le souci de l'unité de l'Église, parfois plus important même, disais-tu, que ton avis personnel. Tu n'as pas compté tes heures, certains se sont même inquiétés que est-ce qu'on ne t'exploitait pas un peu, mais tu nous l'as dit, c'est la passion de l'Évangile qui te pousse. Et nous prions le Seigneur qu'il t'accompagne, te fortifie, te renouvelle, toi, ta famille, ton épouse Heidi, afin que ton ministère puisse continuer à porter des fruits, aussi bien dans notre communauté que dans cette cité où nous sommes présents. Merci.
J'invite Jacques Krebs à me rejoindre en tant que président du Conseil intercommunauté pour nous dire deux mots.
Mes chers amis, nous sommes ici réunis et je m'en réjouis. Et au nom du Conseil intercommunauté, j'aimerais vous adresser quelques mots en disant ceci à notre ami Philippe. Nous sommes ici sur le terrain du Grand Puy. C'est la source de Mérin dans les anciens temps. Il y avait ici une vigne. Et cette vigne, elle avait des ouvriers. Et ces ouvriers ont construit en 1911 une chapelle qui est ici, qui est la chapelle protestante, qui est aujourd'hui la vôtre, grâce à une convention ecclésiale qui a été créée ensemble. Et c'est un plaisir pour moi de m'exprimer au nom du Conseil intercommunauté qui réunit donc pour les paroisses de Mérin, l'Église catholique, l'Église protestante et l'Église évangélique. Nous avons une longue collaboration et nous nous réjouissons de voir aujourd'hui qu'elle se poursuit. Donc c'est au nom du Conseil que j'aimerais souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue au successeur du pasteur Roger Sewell, avec lequel nous avons eu une très fructueuse collaboration jusqu'à son départ à la retraite. Bienvenue donc aujourd'hui pour que nous ayons, que nous sommes déjà rencontrés, nous avons déjà participé à des travaux cette année et comme l'a rappelé Michel, ce fut fructueux. Cette main à la pâte, elle l'a mise aussi au nom de l'éditorial du bulletin œcuménique. C'était pas signé, mais c'était patent. Nous souhaitons donc de connaître aujourd'hui, de voir Philippe connaître aujourd'hui beaucoup de satisfaction dans le ministère à Mérin. Et cette collaboration déjà engagée se poursuivra avec harmonie. Et c'est aussi pour nous l'occasion de dire tout le bénéfice que nous apporte à Mérin l'Église évangélique dans un fructueux partenariat. Ainsi, nos trois communautés protestantes, catholiques et évangéliques se rejoignent, apportent un message d'unité chrétien qui dure maintenant depuis longtemps à toute notre population et qui s'étoffe encore avec le quartier des Vergers. Il n'y a pas de nouveaux ouvriers, l'Église protestante n'a pas eu de nouveaux pasteurs pour 3000 foyers qui sont établis à Mérin en plus. Et la tâche est longue, elle est lourde, mais avec les qualités de nos prêtres et de nos pasteurs, nous pensons que la collaboration va pouvoir s'établir dans cette force nouvelle pour proclamer l'Évangile à Mérin grâce à Philippe Anchaud. Bienvenue. Merci.
J'invite maintenant Jean-Claude Ducrot, président de la paroisse catholique de Cité Mérin.
Monsieur le pasteur, madame, mesdames, messieurs les membres de la communauté évangélique de Mérin, mesdames, messieurs, tout d'abord un grand merci d'avoir associé à votre fête d'installation la communauté catholique. C'est avec beaucoup de plaisir que je la représente aujourd'hui. Je vous félicite et vous remercie d'ores et déjà d'être non seulement parmi nous, mais surtout intégré parmi nos communautés, je l'espère, pour de nombreuses années. Comme vous le savez, la moisson est grande et les ouvriers pas assez nombreux. Mérin, depuis plus de 50 ans, pratique l'œcuménisme, alors qu'au début régnait la méfiance entre nous. Dans les années 60, le pasteur protestant et le curé faisaient du porte-à-porte dans cette nouvelle cité qui se construisait. Ces visites ont conduit la communauté catholique de la cité à dédier la paroisse à la Visitation en l'honneur de la Mère du Christ rendant visite à sa cousine Élisabeth. Comme vous le savez, après le baraquement en bois de la rue Sainte-Cécile, le centre œcuménique a vu le jour. La communauté évangélique y participe, et c'était dit très activement, aux régulières célébrations œcuméniques. Et aussi, ce qui a été fort apprécié, d'avoir mis sur pied une belle fête aux alentours de Noël, autour de la crèche vivante, fort appréciée de la population. Merci, Denise. Monsieur le pasteur, comme vous le savez, l'unité des chrétiens existe et se vit à Mérin. Ces paroles vont peut-être heurter quelques-uns d'entre nous, compte tenu qu'il ne s'agit pas de l'unité que l'on souhaite. En parlant d'unité, pour moi, il s'agit que nous tous, dans nos différences, dans nos sensibilités, soyons unis au Christ. Je crois que l'on ne le proclame pas assez. Pour terminer, je citerai les paroles du pape François lors de sa récente visite à Genève. Que les distances ne soient pas des excuses. Il est déjà possible, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mon patron, de marcher dès maintenant selon l'esprit, de prier, d'évangéliser, de service ensemble. Voilà notre route aujourd'hui. Si le souffle missionnaire grandit, l'unité entre nous grandira encore. Alors, monsieur le pasteur, chers paroissiens, chères paroissiennes, nous avons du pain sur la planche. Je vous remercie de votre attention.
J'invite maintenant Norbert Heiniger, président de la paroisse protestante.
C'est vrai qu'il faut marquer sur l'entrée, effectivement, on tape. Merci d'avoir convié notre paroisse à cette cérémonie. Il y a presque 50 ans que je suis établi à Mérin. Arrivant du Jura bernois, après un transit en Suisse allemande, je dois reconnaître que la notion d'œcuménisme m'était connue, mais c'était passablement abstrait. Mais au fait, c'est quoi l'œcuménisme ? On parle toujours d'œcuménisme. Une des définitions trouvées dit que le mouvement œcuménique tend à promouvoir des actions communes entre les divers christianismes en dépit des différences doctrinales affichées par les diverses églises. Vaste programme. Ces mouvements ont pour référence la parole de Jésus rapportée par l'apôtre Jean 17-22, en fait en partie, qu'ils soient un comme nous sommes un. Très vite, j'ai compris que les églises évangéliques, catholiques romaines et protestantes de Mérin s'étaient lancées dans ce défi. Dépasser nos différences pour s'accorder sur ce qui nous rassemble et non ce qui nous divise. Bref, tenter, oser l'œcuménisme. Oui, nous avons des positions parfois divergentes. Oui, nous avons des approches occasionnellement hétérogènes. Mais n'avons-nous pas un même Dieu ? Fort de ce constat, prêtres et pasteurs, accompagnés par nos anciens, ont discuté, argumenté, examiné les possibilités de louer ensemble notre Seigneur lors de célébrations communes. Leurs recherches, vraisemblablement avec l'aide de Dieu, ont finalement été couronnées de succès et les lignes directrices acceptables par tous, permettant l'organisation de cérémonies œcuméniques, ont été rédigées. Nous pouvions dès lors passer de la théorie à la pratique. Ainsi, nous nous retrouvons régulièrement lors de concélébrations. Toutefois, ce qui aujourd'hui peut paraître acquis doit néanmoins faire l'objet de toute notre attention et notre bienveillance. Rien n'est définitivement acquis. Restons vigilants. Tout au long de cette aventure, l'Église évangélique de Mérin, ainsi que ses pasteurs, ont été acteurs de cette recherche, de cette évolution. Aujourd'hui, un nouvel intervenant est installé en la personne de Philippe Anchaud. Son dynamisme, son ouverture d'esprit et sa convivialité sont les bienvenus. Je ne doute pas qu'il saura poursuivre avec ses collègues et l'appui de nos communautés, bien évidemment, la recherche d'un œcuménisme toujours plus fédérateur, sans renoncer à la spécificité de chacun. Philippe, ouvrier, chef d'entreprise, berger, que sais-je encore, fougueux, ai-je oublié, petit clin d'œil. Philippe, au nom de la paroisse protestante de Mérin, je t'assure de notre soutien et te remercie tout particulièrement pour ton engagement actuel et futur. Que Jésus-Christ t'assiste dans ton ministère et protège tes proches. Merci.
J'invite maintenant Daniel Mola à me rejoindre.
Bonjour, chers amis de l'Église évangélique de Mérin. Mon accent est de Nîmes, mais ça fait plus de 40 ans que je suis en Suisse, et c'est cette présence en Suisse qui fait que Philippe n'est pas un inconnu pour moi, ni son épouse. C'est avec grand plaisir que Anne et moi participons à cette journée si particulière dans la vie des Anchaud, comme dans celle de votre Église. Si mes souvenirs sont exacts, j'ai rencontré Philippe et Heidi pour la première fois en 1997, à l'Institut biblique de Genève, quand j'y donnais quelques cours. Philippe faisait partie d'une équipe d'étudiants passionnés par l'étude de la Bible et qui profitait de toutes les occasions pour poser des questions, y compris pendant les repas. On devait parler la bouche pleine, ce qui menait à des discussions très animées, mais toujours souriantes. C'était de bons moments marqué par une saine émulation. C'est sa soif d'apprendre et son enthousiasme dans l'étude de la Bible qui m'ont marqué au sujet de Philippe. Et je crois qu'il a gardé cette volonté de toujours mieux comprendre l'Évangile pour mieux le vivre et en témoigner autour de lui. Au printemps 98, Philippe et Heidi m'ont demandé si leur stage de deuxième cycle pouvait se faire chez nous à Bienne, dans l'église baptiste. Il se trouve que, depuis des années, nous mettions chaque mois de l'argent de côté en vue d'accueillir, le moment venu, un stagiaire, en ayant des finances suffisantes pour un soutien significatif. Le moment était donc venu. Le 30 août 1998, notre église a donc accueilli le couple Anchaud. Dans 4 jours, cela fera 20 ans. Ils sont restés avec nous 2 années, qui se sont envolées trop vite. La communion avec eux a été bienfaisante et la participation de Philippe au ministère dans l'église fut très enrichissante. Nous passions chaque semaine des heures à parler sur toutes sortes de sujets théologiques et pratiques. Nous ne nous sommes jamais ennuyés ensemble. Et nous sommes restés amis, au sens fort du terme. Depuis leur départ de Bienne en juillet 2000, nous avons suivi leur parcours rempli de tant de bonnes choses. Il a aussi suivi le nôtre de parcours, participant même au culte qui marquait mon départ à la retraite. C'est aussi des choses qui arrivent, mais il y a un peu de temps pour ça. Il y a bientôt 7 ans. De temps en temps, nous avons partagé nos réflexions sur l'œuvre de Dieu, sur notre engagement pastoral avec ses joies et ses peines. Nous avons prié ensemble et maintenant c'est une nouvelle étape qui commence ici. Nous sommes heureux que votre Église puisse profiter du ministère pastoral de Philippe et nous serons toujours très intéressés par les échos de ce que Dieu a en réserve pour vous comme pour lui, pour Heidi, pour Laura qui est née à Bienne et pour Elliot. Notre prière c'est que Dieu vous renouvelle tous et chacun, vous qui êtes engagés dans cette Église, pour qu'ensemble, avec Philippe, vous serviez à l'avancement de son règne dans cette ville et dans sa banlieue. Je crois que c'est Genève. Encore un merci pour votre accueil chaleureux.
Il m'incombe de faire avancer le programme et arriver à un moment plus solennel de consécration. Il y a 4 temps, l'un très court, l'autre aussi, le troisième aussi et le quatrième aussi. Tout d'abord, quelque chose de personnel, cher Philippe. Nous avons servi l'église évangélique de Mérin ensemble avec bonheur, maintenant 1 année. Et je bénis Dieu pour la bonne entente. Le partage heureux des objectifs. Nous avons un architecte en commun. Et le plaisir de voir nos dons et nos ministères et nos manières de faire se compléter. Maintenant, c'est comme un couple, vous savez. Un mariage, c'est essentiellement ce qu'on en fait tous les jours. Hein, que le Seigneur et sa grâce continuent à nous accompagner. Et avec toi, Philippe, je rappelle une histoire. Le pasteur, c'est d'abord un miroir. Il lui appartient de refléter Jésus-Christ, le ciel, sa lumière, le soleil de justice. Le pasteur, c'est d'abord un miroir pour éclairer, pour nous éclairer, mais pour éclairer les humains, nos frères et nos sœurs, à commencer par l'Église. Le pasteur, c'est d'abord un miroir. Dieu nous éclaire, nous réchauffe de son soleil, à nous de le renvoyer aussitôt. Philippe, on va le faire ensemble. Éclairer, réchauffer. Maintenant, on peut commencer à en parler. Réchauffer mon semblable pour partager son quotidien dans ses joies et ses peines. Éclairer pour redire l'espérance jusqu'au bout, jusqu'au bord. Et le bord, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et pour cela, ne pas mettre mes mains dessus sur le miroir, sinon pour le polir et le rendre plus net. Philippe, je suis heureux de le faire avec toi. C'était la première partie. Deuxième partie. Une consécration pastorale, c'est une fête. C'est une fête où on dit merci au Seigneur, mais ça se fait sur la base d'une alliance. Et une alliance, ça a 2 parties qui s'engagent. Nous allons entendre la partie d'engagement de Philippe, c'est la deuxième partie, et nous aurons l'occasion, nous aussi, frères et sœurs de la communauté évangélique de Mérin, une fois que nous serons debout, de dire un texte d'engagement. Mais je ne veux pas vous tromper, je vais le lire avant pour que vous sachiez à quoi vous vous engagez. Ce sont des choses élémentaires et toutes simples, mais que ça fait du bien quand c'est explicite. Alors, Philippe, si tu es d'accord, non, il est d'accord puisque ça est convenu, viens nous dire ce qu'est ton engagement et pour lequel nous pourrons te prier. Prier le Seigneur qu'il te soutienne dans ton service spécifique.
Merci beaucoup, Claude. C'est un bonheur d'envisager la suite de cette collaboration. Merci à chacun, chacune, de vous être déplacé, d'être là. Vous nous êtes vraiment précieux. Le ministère pastoral, bénévole ou à plein temps, n'est à mon sens pas concevable sans une triple passion. Pour la Bible, pour l'Église et pour Dieu. Je demande à Dieu que ma pratique pastorale s'inspire de sa parole et que cette passion pour sa parole se vive au bénéfice de notre Église. Une passion pour l'Église. Si Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », comment ne pas être passionné par elle ? L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume, qui tombe sans que cela ne me brûle. Une passion pour l'Église. Peut-être pourrions-nous parler d'autres passions qui animent les serviteurs de Dieu qui sont si différents selon leur appel, selon leur tempérament, mais la passion qui alimente toutes les autres. Ultimement, ça ne peut être que l'amour de Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, avec l'aide du Seigneur, qui est le chef de l'Église, et en accord avec le fonctionnement des églises évangéliques de la Frée, je m'engage ce matin, aux côtés de mon collègue pasteur Claude Bécher, aux côtés de notre conseil d'Église, au service de l'Église évangélique de Mérin. Merci encore pour votre accueil tellement généreux, pour la confiance que déjà vous nous avez témoignée et que vous formalisez ce matin. Merci pour votre amitié, merci pour vos prières pour l'accomplissement de ce ministère. Avec l'aide de Dieu et votre solidarité concrète, je tâcherai de toutes mes forces et par tous les temps d'être digne de votre confiance et de vous servir à l'exemple de Jésus. J'ai bien conscience de vos nombreux engagements familiaux, professionnels, associatifs, engagements dans l'Église aussi et au-delà. Servir Dieu ensemble, c'est un privilège et une responsabilité que je me réjouis de vivre à vos côtés, avec vous, pour vous. Je m'engage aussi conscient et reconnaissant pour la grande variété des dons et des ministères qui s'expriment déjà à Mérin. Et je veux m'inscrire dans cette variété. Nous avons tous besoin les uns des autres, dans la complémentarité des charismes et des responsabilités, dans l'unité et dans la diversité. Je veux tirer avec vous dans le même sens, pour la gloire de Dieu et pour le bien de son peuple et des habitants de Mérin. Comme pasteur, je m'engage à travailler en bonne intelligence avec les membres du conseil, avec mon collègue Claude Bécher, avec chacun, chacune des responsables d'activité et également avec nos communautés sœurs et voisines qui confessent le Christ et avec lesquelles nous avons le grand privilège de collaborer étroitement. Être pasteur, je le mesure, c'est d'abord, pour reprendre l'image pastorale de la Bible, nourrir, diriger, protéger, soigner le troupeau du Seigneur. Et pour cela, avec l'aide de Dieu, je m'engage à veiller à ce que la parole de Dieu, la parole du Christ, souverain berger, continue à être proclamée pour toutes les tranches d'âge. Je m'engage à baptiser les nouveaux croyants en Jésus et à célébrer la Sainte Cène selon l'ordre du Seigneur. Je m'engage à nous assurer que les soins soient donnés à ceux et celles qui sont dans la détresse ou dans le besoin. Je m'engage à appeler la bénédiction sur les unions conjugales à venir, sur les nouveaux-nés et leurs parents. Bienvenue, Noam. Je m'engage à accompagner les membres dans la joie et dans la peine, à visiter les malades et les aînés isolés. Je m'engage à encourager chacun, chacune, jeunes et moins jeunes, à être fidèles à Jésus-Christ dans la vie concrète comme elle est. Je m'engage à représenter l'Église auprès d'autres églises ou instances politiques et bien sûr dans notre fédération d'Églises, la Fédération romande d'Églises évangéliques, que je souhaite servir également. Je m'engage à encourager et à valoriser l'exercice des dons divers. Je m'engage à veiller à toute l'Église dans sa mission. Je m'engage à vivre cette dimension collective dans le service des besoins qui se présentent pour le bien de la commune de Mérin. Pour l'exercice de ces services, pour le respect de ces engagements, je sollicite vos prières. Et d'avance, je vous remercie pour toute communication amicale, bienveillante, directe, sincère, tout ce qui est nécessaire à l'exercice de notre service. Je m'engage enfin, conscient de mes limites, conscient de mes failles, comme un instrument perfectible entre les mains du Sauveur que nous aimons ensemble et qui nous accompagne chacun dans sa grâce. Je suis vraiment heureux de vous servir. Nous sommes heureux de vous servir, d'être avec vous à Mérin. Et avec les dons et la force qui sont les nôtres, par la grâce de Dieu, que l'aventure continue. Merci.
Nous avons entendu l'engagement de Philippe. Nous avons maintenant écouté une proposition d'engagement que nous avons déjà travaillée avec le Conseil, mais qui est élémentaire, mais on veut que ce soit explicite. Nous allons projeter un texte, je le lirai dans un premier temps. Et puis après, quand on sera tous debout, j'inviterai les frères et les sœurs de la communauté évangélique de Mérin de l'exprimer à voix haute. Ce sera notre part de l'alliance de l'engagement. L'engagement de l'Église évangélique de Mérin envers le pasteur Philippe Anchaud. Il y a deux slides qui viennent. On passe. Voici ce que je vous propose. C'est une prière devant le Seigneur de l'Église, le souverain berger. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour le don pastoral de Philippe Anchaud. En ce jour, nous le recevons comme un cadeau de ta part. Ça va, c'est élémentaire, hein ? Deuxièmement, aide-nous à l'entourer ainsi que son épouse Heidi et leurs enfants, ils s'appellent Laura et Elliot, avec bienveillance et à intercéder régulièrement en leur faveur. Attention, les mots ont des conséquences, hein ? Oui ? Ça vous va ? Nous nous engageons à nous mettre au service les uns des autres. Ça, ce n'est pas de servir le pasteur, hein ? Seulement, les uns des autres. C'est élémentaire dans la foi chrétienne. Pour que ta volonté soit faite à Mérin et dans la région. Ça, c'est dire « avec mon don, je veux aussi contribuer ». Forme-nous pour ce service et fais la grâce à Philippe de nous y aider. Ça va ? C'est élémentaire, hein ? Deuxième slide. Il n'y en a que deux. Nous nous engageons à respecter son service pastoral pour qu'il puisse servir dans la joie, dans la durée, en collaboration avec les autres ministères. Et ils sont nombreux aussi ici. Ça vous va ? Élémentaire. Nous nous engageons à pourvoir à ses besoins matériels durant le temps de son service. Tous ceux qui n'ont pas de salaire disent « Oui ». Nous nous engageons à communiquer avec lui de manière directe et bienveillante. Vous savez, il nous l'a même demandé tout à l'heure. Vous avez remarqué ? Directe et bienveillante, hein, pas directe et malveillante. Que la grâce et ta grâce, Seigneur, et ta sagesse soient sur son engagement pour qu'il puisse maintenir l'équilibre entre service, repos et renouvellement. Ça vous va ? Je vous invite tous à vous lever. Et si vous partagez ceci, membres de la communauté évangélique de Mérin, dites-le à voix haute avec moi. Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour le don pastoral de Philippe Anchaud. En ce jour, nous le recevons comme un cadeau de ta part. Aide-nous à l'entourer ainsi que son épouse Heidi et leurs enfants avec bienveillance et à intercéder régulièrement en leur faveur. Nous nous engageons à nous mettre au service les uns des autres pour que ta volonté soit faite à Mérin et dans la région. Forme-nous pour ce service et fais la grâce à Philippe de nous y aider. Nous nous engageons à respecter son service pastoral pour qu'il puisse servir dans la joie en collaboration avec les autres ministères. Nous nous engageons à pourvoir à ses besoins matériels durant le temps de son service. Nous nous engageons à communiquer avec lui de manière directe et bienveillante. Que ta grâce et ta sagesse soient sur son engagement pour qu'il puisse maintenir l'équilibre entre service, repos et renouvellement. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur fait pareil avec nous, ça s'appelle l'alliance. Un engagement bilatéral où sa grâce est première et dernière. Nous avons maintenant un temps de prière, c'est la quatrième partie. Je vous ai dit, c'est court. Dans ce temps de prière, auquel j'invite trois autres personnes à s'exprimer pour une prière, pour des domaines particuliers, j'aimerais inviter son ami et le pasteur Daniel Mola. J'aimerais inviter Philippe Tuller également, secrétaire général de notre association d'église, et Joanne Lérèche, nouveau membre du conseil qui a présidé ce culte, à se joindre. Et bien entendu, Philippe et Heidi, si vous voulez bien vous avancer.
Seigneur, c'est tellement précieux de pouvoir nous unir maintenant dans la prière, devant toi, pour te demander de faire reposer ta bénédiction sur Philippe et son ministère dans cette église. Il a besoin de toi pour bien le remplir. Aussi, Seigneur, jour après jour, renouvelle en lui la joie d'être ton enfant, d'être un de tes rachetés. Renouvelle en lui la passion d'être au service du meilleur des maîtres. Renouvelle en lui les forces nécessaires, physiques, morales et spirituelles, pour la charge que tu lui confies. Seigneur, dans ta grande bonté, Accorde-lui sagesse et discernement, patience et amour, courage et détermination pour proclamer la bonne nouvelle de ta grâce, pour enseigner ta parole sainte, pour qu'elle édifie ton peuple et éclaire la voie de ceux qui te cherchent, pour qu'il soit un berger fidèle, ici, où tu l'as maintenant placé. Oui, Seigneur, dans ton amour, bénis richement Philippe et tous les siens dans cette nouvelle étape de leur vie, et cela pour ta seule gloire. Amen.
Seigneur, nous voulons te remercier pour Philippe, et pour ma part, j'aimerais te remercier de l'adjoindre à notre fédération. Et je te prie que tu bénisses et que tu gardes son insertion. Que ça puisse être pour lui une source d'encouragement, de soutien. Merci parce qu'il a déjà de très bons contacts avec tous les autres pasteurs. Continue à poser ta main sur lui. Merci d'avance aussi pour les dons que tu lui as donnés qu'il pourra exercer au-delà de la région de Mérin. Je te prie aussi que ses fruits puissent être visibles, puissent être une bénédiction.
Amen. Comme serviteur du Seigneur et mandaté par ton Église ici sur le plan local, l'Église évangélique de Mérin, nous vous installons dans la charge de pasteur de cette Église au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle grâce tu nous fais d'être collaborateurs de Jésus-Christ, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Esprit de grâce, de joie, de force et de sagesse, accompagne, vous qualifie, vous bénisse. Alléluia. Amen.
Amen. Amen.
Merci beaucoup. Merci.
Voilà, nous arrivons bientôt à la fin. J'invite le groupe de louanges à monter sur scène pour que nous chantions un chant qui soit une bénédiction. Cette bénédiction que nous avons l'habitude de faire à la fin d'un culte, eh bien, c'est une bénédiction que l'on va chanter tous ensemble, à la fois pour Philippe, Heidi et sa famille, mais aussi pour nous en tant qu'Église.
Thank you.
t'asseoir. Et maintenant, surprise aussi, parce qu'une église, c'est aussi des enfants. Alors, les tournesols se tournent toujours vers le soleil. On a parlé de miroir avant. Un cadeau encombrant, ben, ça fait plaisir. Et comme je disais, c'est tournesol, c'est des soleils, ils se tournent toujours vers le soleil.